J'invite Pasteur Célestin pour le message.
Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous et qu'il bénisse ce matin encore nos vies. Père éternel, nous te bénissons, te disons merci. Toi qui es notre seul bien. Toi qui es le Dieu véritable, tout-puissant. Merci ce matin de nous bénir encore et de nous parler. Père, vers toi on vient. Et sur toi, on veut se déposer. En toi, on veut se reposer, afin que ta grâce nous assiste pleinement. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Bénis ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, ce matin, nous regardons le psaume 42. Mais avant, je voudrais dire que le psaume 42 et le psaume 43 formaient un seul bloc autrefois. Donc, j'avais eu l'impression de pouvoir traiter les deux à la fois, mais c'était trop de stock pour moi, donc je me suis limité au psaume 42. Et puis, si Dieu permet, prochainement, on pourrait regarder le psaume 43 ensemble. Amen. Donc, le titre du psaume 42, au fait, est attribué aux fils de Corée. Et les fils de Corée sont ceux qui ont chanté ce psaume, mais pas nécessairement ceux qui ont fait la composition. Parce qu'ils étaient reconnus comme des chantres et puis d'un musicien de talent, et ce psaume leur est attribué comme titre. Et il faut noter que quand on parle des fils de Corée, ce sont des Lévites, mais qui sont de la lignée de Corée. Lorsqu'on se rappelle dans le désert avec Moïse, il y avait une révolte où on parlait de Corée, qui s'était associé aussi avec d'autres personnes, donc qui se sont révoltés contre Moïse et Aaron. Et la parole de Dieu dit que la terre s'est fendue et Corée a été engloutie avec ceux qui étaient avec lui. Et par la suite, on nous dit que les fils de Corée ont été épargnés. Les fils de Corée ne sont pas morts. Donc c'est cette lignée-là qui humblement va servir le Seigneur. C'est cette lignée-là qui va s'engager dans le temple pour adorer Dieu. Donc ils ne vont pas suivre effectivement l'exemple de leur père, de leur aïeux Corée. Donc, les fils de Corée, au fait, sont des Lévites, effectivement, qui servaient Dieu dans le temple. Et en plus de leur service dans le culte, dans le temple, ils étaient reconnus pour leur talent aussi de musicien et de chantre. Parlant du contexte, donc, de notre texte, le contexte n'est pas précis. Il n'est pas précis. Cependant, ce poème met en évidence, comme on l'a chanté aussi ce matin, la souffrance du psalmiste qui est loin de sa terre, loin de Jérusalem, loin de son centre d'adoration, loin de son sanctuaire, certainement parce qu'il est forcé à l'exil. Donc, au milieu des tribulations qu'il vit, donc, il a soif de Dieu. Donc, il crie sa soif à Dieu. Son âme est abattue au-dedans de lui. Et le seul qui peut le délivrer, c'est Dieu, son seul bien. Donc, en lui, il veut espérer. Donc, ce poème, donc le psaume 42, aussi ferait référence à David lors de sa fuite devant son fils Absalom, qui avait pris le trône. Donc, quand on lit 2 Samuel 15, 2 Samuel 16 et par la suite, on va voir que Absalom va prendre le trône, David va fuir avec son armée, pour ne pas que Absalom et son armée viennent le tuer. Donc, ils vont aller se réfugier. Donc, loin de Jérusalem, loin de son centre d'adoration. Et lorsqu'on fait la lecture, on nous dit que le tabernacle devait partir avec l'arche, du moins. L'arche devait partir avec David. Mais David a souhaité effectivement que l'arche reste à Jérusalem. Et donc, c'est dans ce contexte-là que ce poème aussi est écrit. Mais de façon précise, on ne nous le décrit pas. Mais quand on fait les rapprochements, effectivement, on se dit que ce poème fait référence aussi à David. Et la question qu'on pourrait se poser, nous autres, c'est quand le doute nous envahit et que la souffrance prend le dessus dans nos vies, d'où peut venir notre secours? Et avons-nous confiance ou perdons nos repères lorsque nous passons par des moments difficiles? Et individuellement, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de sentir que le découragement prend le dessus sur notre foi? on est tellement abattu, tellement découragé, on est tellement dans la détresse ou oppressé qu'on a l'impression que notre foi n'est plus là, elle est minime ou elle disparaît. Lisons notre passage, le psaume 42. Dans certaines versions, il y aura des chevauchements au niveau des versets. Ok. Au chantre, au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues ou tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Donc, c'est, je dirais, dans ces moments de détresse, dans ces moments d'oppression, que le psalmiste crie, que le psalmiste s'adresse au Seigneur. Donc, je voudrais que nous puissions regarder ce psaume, le répartir en deux strophes, notamment du verset 1 au verset 5, où le psalmiste indique sa soif de Dieu dans les épreuves, et du verset 7 au verset 12, le psalmiste espère en Dieu malgré l'oppression de ses ennemis, malgré sa souffrance, il espère en Dieu. Lorsque nous portons nos regards sur les versets 1 à 3, le psalmiste compare sa soif de Dieu à une biche qui soupire après des courants d'eau. Et je regardais un peu, mais une biche qui soupire après les courants d'eau, comment elle se comporte? Donc je cherchais un peu. Et on nous fait dire qu'en saison sèche, la biche, pour sa survie, erre pour trouver un point d'eau. Tellement elle a soif. Et le point d'eau devient donc, je dirais, son centre d'intérêt. Donc toutes ses activités, tout ce qu'elle va faire, va tourner autour du point d'eau. Donc, quelles que soient ses balades, elle a une référence, c'est que c'est le point d'eau. Donc elle va tout faire pour garder la trajectoire, le trajet de ce point d'eau-là. En même temps qu'elle garde le trajet de ce point d'eau, elle va, son organisation sociale, sa stratégie de défense ou de protection contre les agressions ou des prédateurs va se faire autour de ce point d'eau-là. Donc, le point d'eau devient pour la biche son centre d'intérêt, son centre de vie. D'ailleurs, comme nous, comme on dit, l'eau est source de vie. Hein? C'est-à-dire, quand on commence à avoir soif, quand on ne boit pas, on commence par se déshydrater. Par la suite, c'est beaucoup de complications qui s'en suivent. Donc, David, excusez-moi, le psalmiste, je veux dire, je corrige parce que dans le texte, on ne va pas parler de David, on va parler du psalmiste. Okay? Donc, le psalmiste ici, qu'est-ce qu'il va faire? Sa soif de Dieu est grande. Et sa soif de Dieu, il la compare à la soif de la biche et vis-à-vis du courant d'eau. Donc, autant le courant d'eau devient pour la biche son centre de vie, pour le psalmiste, Dieu est son centre de vie. Et Pour le psalmiste, tout ce qu'il fait, toute son organisation, toutes les stratégies de défense et tout cela doivent s'appuyer sur Dieu. C'est pour cela qu'il compare donc sa soif de Dieu à une biche qui soupire après des courants d'eau. Il dit, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Donc, c'est sa préoccupation, c'est son inquiétude. Son âme a soif de Dieu, cette intimité avec Dieu lui manque. C'est-à-dire, le fait de ne pas être capable d'être dans le sanctuaire, d'être loin du moins du sanctuaire, devient difficile pour lui. Et son âme a soif. Son âme a soif de Dieu, et il précise du Dieu vivant. En précisant du Dieu vivant, son âme n'a pas soif des idoles. C'est-à-dire des dieux qui ont des oreilles et n'entendent pas, des dieux qui ont une bouche et qui ne peuvent parler, des dieux qui ont des yeux mais qui ne peuvent pas voir. Mais son âme a soif du Dieu vivant. Du Dieu vivant qui peut être à son écoute. Du Dieu vivant qui connaît ses situations, qui connaît ses problèmes. Du Dieu vivant qui peut prendre soin de lui. Donc cette intimité-là lui manque. Au verset 4, l'intimité avec Dieu, ou cette souffrance qu'il vit, fait en sorte que ses larmes sont sa nourriture jour et nuit. Et en français facile pour moi, j'ai dit, ben, c'est qu'il mange ses larmes. Jour et nuit. C'est-à-dire que la situation est difficile. Elle est pénible pour lui. La douleur est grande. Et il n'y a personne autour qui peut lui apporter cette paix ou cette tranquillité qu'il recherche. Si ce n'est Dieu. Et encore, c'est encore plus difficile quand il se rend compte qu'autour de lui, on l'outrage. Où est donc ton Dieu? Où est donc ton Dieu, celui sur qui tu comptais? Où est donc ton Dieu, celui qui pouvait te secourir? Cher ami, il n'y a plus d'espoir pour toi. Ton Dieu était là, et puis tu as été obligé de fuir en exil. Ton Dieu était là, et puis tu as été obligé d'être loin de lui, et tu es obligé d'être loin de lui. Où est donc ton Dieu? Dans cette épreuve, son âme soupire après Dieu seul, qui peut le sauver. Il a soif de Dieu, et comme il le dit, il a soif du Dieu vivant. Et le psalmiste veut se tourner vers la source d'eau vive pour être désaltéré. Autant la biche cherche à se désaltérer après ou près d'un courant d'eau, le psalmiste cherche Dieu pour que son âme puisse se désaltérer. Qui cherchons-nous quand au fond de nous l'abattement prend le dessus? Qui cherchons-nous quand le découragement nous envahit? Le psalmiste cherche Dieu. Il nous montre la voie. Quand tout va mal, des fois quand on dit qu'il n'y a plus d'espoir, une lueur d'espoir est là. Parce que le psalmiste met sa confiance en Dieu. Jérémie 2, verset 13 nous dit, « Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Des fois, nous sommes tellement troublés, abattus, découragés, oppressés par notre environnement qu'on va chercher nous-mêmes des solutions. Qu'on va chercher des voies pour nous retrouver. Mais des fois, les voies que nous cherchons sont comparées à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas porté ou parce qu'on ne porte pas nos regards vers l'Éternel, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous dirige. Et le psalmiste avait compris cela. Et son centre d'intérêt, premièrement, c'était Dieu. Son centre d'intérêt, c'était son Dieu, c'était le Dieu vivant. Alors, où est donc ton Dieu, pourrait-on te dire? Où est donc ton Dieu lorsque, subitement, après un simple examen de routine, tu es diagnostiqué avec une maladie incurable? Où est donc ton Dieu? Où est donc ton Dieu lorsque tu vois ton couple battre de l'aile et tu ne sais comment agir, comment faire? Mais où est donc ton Dieu? Où est donc ton Dieu lorsque les lendemains deviennent incertains? Où est donc ton Dieu quand tout semble s'écrouler devant toi et que tes larmes deviennent ta nourriture jour et nuit? Sur quoi t'appuies-tu? Le psalmiste soupire après Dieu, qui est la source d'eau vive pour lui, pour être abreuvé. Comme l'abysse soupire après des courants d'eau, que notre âme soupire après Dieu. Quand tout va mal, on peut encore soupirer après Dieu. Quand tout semble s'écrouler, quand nos projets semblent tomber à l'eau, on peut encore soupirer après Dieu. Jésus dit, Jean 7, 37 à 38, il dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. » Je veux dire à quelqu'un ce matin, encore on peut aller à Jésus. C'est la source d'eau vive. Encore on peut se tourner vers lui. C'est la source d'eau vive. Donc face à cette pression, le psalmiste se tourne vers ses souvenirs. Le verset 5, le psalmiste nous dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce, d'une multitude en fête. Donc, il se souvient des moments festifs. Il se souvient des moments glorieux qu'il a passés avec son Dieu, dans la présence de son Dieu. Souvenons-nous de David quand il revenait des victoires après-guerre, les processions qu'il avait. Souvenons-nous de lui quand on disait, mais Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Le psalmiste se souvient ici de ces moments glorieux, de ces moments festifs qu'il a passés. Il avait la nostalgie de la maison de Dieu. Certainement parce qu'il était éloigné. Mais il n'a pas oublié dans sa souffrance et dans sa douleur, dans sa peine, de compter aussi les bienfaits de Dieu. Il dit, je me souviens. Je me souviens quand tu marchais devant nous. Je me souviens de ces belles processions qu'on faisait ensemble, le peuple avec, pour aller au sanctuaire, pour t'adorer, Seigneur. Ce souvenir était pour le psalmiste une motivation, un encouragement. Il se souvient des bienfaits de Dieu. Le souvenir de ces beaux moments lui donne la force de surmonter les épreuves par lesquelles il passe. Quand il se souvient des bienfaits de Dieu, il se dit certainement autrefois, Dieu a fait. Aujourd'hui encore, il va faire. Et demain, il fera. Cela l'encourage. Il n'a pas dit que le malheur ne nous atteindra pas. Mais il a dit que quand le malheur va venir, il va nous en délivrer. Amen. Et le psalmiste se souvient de ces choses-là. Ces expériences vécues avec Dieu le poussent à encourager son âme. Il espère en Dieu. Il sait que malgré la force de l'oppression, Dieu agira. quelle que soit la durée, quelle que soit la forme de l'oppression, Dieu est fidèle. Et il espère en lui. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Et quand je lisais le verset, je vois d'un côté, la première partie, je vois de la tristesse dans le verset. De la souffrance, de la douleur dans le verset. Pourquoi t'as battu mon âme? L'âme est découragée. Et la seconde partie du verset, je vois une espérance. Je vois une louange, je vois une action de grâce. Et le dimanche dernier, pendant que le frère Patrick prêchait, il y a un verset qui a tellement attiré mon attention. C'était le psaume 116, le verset 10. Le psalmiste disait dans ce passage, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je suis bien malheureux, mais pourtant j'ai confiance. C'est ce que le psalmiste est en train de nous décrire ici. Je souffre, je suis bien malheureux, j'ai de la douleur, j'ai de la peine. Mais mon âme, je te dis, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est vrai que c'est douloureux. C'est vrai que les nouvelles ne sont pas gaies, ne sont pas joyeuses, ne sont pas bonnes pour nous. Mais ce que je sais, c'est que je louerai Dieu encore parce qu'il est mon Dieu. Parce qu'il est mon salut. Cette tristesse fut aussi ressentie par notre Seigneur Jésus. Face au poids du péché de l'humanité, et la perspective donc de la crucifixion, Jésus disait, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Matthieu 26, 38. Son âme est triste jusqu'à la mort. Parce que le poids de nos péchés, la malédiction de nos péchés, il est porté pour nous. Il est porté pour que nous puissions être libres. Il dit, mon âme est triste, triste jusqu'à la mort. Dans la deuxième strophe que je voudrais que nous regardions, le psalmiste espère en Dieu malgré l'oppression de ses ennemis. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Il marque ici l'éloignement de son centre d'adoration. Je suis abattu au-dedans de moi. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Et aussi, c'est à toi que je pense, Seigneur. Je suis loin de toi, mais je pense à toi. Le psalmiste soupire après Dieu. Malgré l'éloignement, malgré la solitude qu'il peut vivre, son espérance, donc c'est Dieu. Il ne cache pas son mal devant Dieu. Il ne peut s'empêcher de penser à lui. Son oppression est grande. Loin de la maison de Dieu, loin de son centre d'adoration, il ne pense qu'à Dieu et il espère en Dieu. Il passe d'une difficulté à une autre. Et au verset 8, l'image qu'il utilise donc, c'est l'image de la mer. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Tout est vague et tout est flot, pas sur moi. Il a fini avec son âme. Il a intimé l'ordre à son âme d'espérer en Dieu. Et maintenant, il va parler à Dieu. Il va répandre encore son cœur devant Dieu. Il dit, un flot appelle un autre flot. Une difficulté appelle une autre difficulté. Une douleur appelle une autre douleur. Quand je pense que la première peine, la première souffrance passe, une autre souffrance s'ajoute. Et ce qui est marquant dans ce passage, là il ne parle même plus de ses oppresseurs, mais il dit, tes vagues, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Il est en train de dire au Seigneur, est-ce que ce qui m'arrive, n'es-tu pas au courant? Sais-tu ce qui m'arrive ou pas? Mais en le disant, il est en train de dire que son Dieu est souverain. Amen. Il est en train de dire au Seigneur, tu es au ciel et tu vois tout et tu fais ce que tu veux. Parce que les railleries, les moqueries, on lui dit, mais avec toutes ces souffrances-là, mais dis-moi, où est ton Dieu? Où est donc ton Dieu, celui sur qui tu t'appuyais, tu te reposais? Alors, en le disant, il est en train de déclarer que mon Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Souvenons-nous de Job. Dieu était-il souverain dans la situation de Job ou pas? Dieu était-il informé de ce qui arrivait à Job? Est-ce que la situation de Job surprenait Dieu? Rien n'est étranger à notre Dieu. Rien ne le surprend. Même quand nous passons par des moments difficiles, où on a l'impression que Dieu est loin, où on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Pourquoi m'oublies-tu, mon Dieu? Le Seigneur dit, je suis là, avec toi, t'accompagnant et te soutenant. Le Dieu de sa vie était présent pour lui. Il se souvient de la grâce de Dieu dans sa vie. Toute l'oppression de l'ennemi ne l'empêche pas de se rappeler la relation qu'il avait avec Dieu et de la faveur de Dieu dans sa vie. Le psalmiste dit au verset 9, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. » Il met l'accent sur l'intimité qu'il avait avec son Dieu. « J'avais une relation avec toi. J'avais une intimité avec toi. La nuit, je chantais tes louanges. » Parce que ta bonté s'était tellement manifestée dans le jour que la nuit, je chante tes louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie, mais le Dieu de ma vie m'exauçait. Seigneur, j'espère en ta bonté. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu peux encore espérer en la bonté de Dieu. Le psalmiste exprime sa souffrance à Dieu qui est son rocher. Donc, des versets 10 au verset 11, je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Il interpelle Dieu. Il avait parlé à son âme. Il a demandé à son âme d'espérer en Dieu. Et il avait espérance, il avait foi, qu'il louera Dieu. Parce que Dieu est son salut et Dieu est son Dieu. Et là, il s'adresse maintenant à son rocher. Il s'adresse à son Dieu. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Certainement, le psalmiste, quand il entendait où est son Dieu, il rentrait en lui-même, il était tout enragé. Ce n'est pas possible. Mon Dieu est au-dessus de tout. On l'a chanté tantôt. Mon Dieu est tout puissant. Rien ne peut résister à mon Dieu. Mais pourquoi je passe par toutes ces tristesses? Pourquoi autour de moi, pourquoi les nations diraient-elles, où est donc ton Dieu? Où est donc votre Dieu? Pourtant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Notre Dieu est le créateur de l'univers. Quand notre Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand il a dit non, personne ne peut dire oui. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui a vaincu la mort et qui est ressuscité pour nous donner l'espérance de la résurrection. C'est notre Dieu. Mais pourquoi m'oublies-tu? Je crie à toi et tu m'oublies. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Et certainement, dans ton entourage, quelqu'un va dire, mais ton Dieu là aussi, pour faire, c'est long, hein? Ton Dieu là aussi, il met du temps à agir. Mais je te demande de venir, on va régler ton problème parce que j'ai une autre solution, mais tu ne veux pas, tu résistes. Pour toi, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Et cela te fait douter, pardon. Mais ce matin, Dieu veut nous dire qu'il est encore fidèle. Et il crie à son rocher. Il dit, je dis à mon rocher. Le rocher est le symbole de la stabilité, de l'éternité, de ce qui est durable. Il dit, je m'adresse à mon Dieu qui est éternel. Le rocher est symbolique de la sécurité aussi. Il s'adresse à son rocher qui assure la sécurité quand il est en danger. Donc, il s'adresse à son rocher. Son rocher qui est sa force, quand bien même il serait faible, quand bien même les forces lui manqueraient, mais le rocher assure sa force. Le rocher est son refuge. Parce que quand tout va mal, il ne sait pas où aller se réfugier. Il peut aller se réfugier dans le rocher. Quand on prend l'exemple de David encore une fois de plus, lorsqu'il est poursuivi par Absalom ou même poursuivi par Saül, avec ses soldats, c'est dans les rochers qu'ils vont se cacher, dans les grottes qu'ils vont se cacher. Il s'adresse à son rocher qui est son refuge, qui est sa force. Il s'adresse à son rocher qui est stable, qui est fidèle et qui ne change pas. Il s'adresse à son rocher qui a fait hier pour lui, qui est capable de faire encore aujourd'hui pour lui. David avait une grande expérience de Dieu. Là où Dieu est allé le chercher pour l'amener au royaume, quand on voit le parcours de David, c'est extraordinaire. Mais le psalmiste ici appelle son rocher. Et ce matin, nous pouvons aussi appeler notre rocher. Jésus-Christ est notre rocher. On peut encore l'appeler. On peut encore se réfugier en lui. On peut encore aller à ses pieds. Et je vais même dire, on peut encore aller à ses pieds, pleurer sur ses pieds. On peut encore l'invoquer. Notre rocher ne sommeille ni ne dort. Et ton rocher ne sommeille ni ne dort. Le psalmiste se tourne vers Dieu, son rocher, en qui il a toujours confiance, malgré les outrages, malgré son épreuve. En français facile, le psalmiste certainement est en train de dire, mais ça m'énerve tellement quand les gens me disent, où est mon Dieu, que je veux même les battre, les frapper. Il est tellement énervé. Il a tellement de la peine, tellement de la douleur. Mais où est ton Dieu? Mais il sait que son Dieu interviendra et son Dieu agira pour lui. Il dit, mes os se brisent. La douleur est forte. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Le verset 12 qui reprend le verset 6. Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon Dieu et mon salut. Malgré qu'il soit ébranlé par la souffrance physique, par la souffrance psychologique, émotionnelle, par la solitude et les moqueries qu'il vit, le psalmiste met son espoir en Dieu. La foi que son Dieu interviendra et le louera encore dans sa présence, parce qu'il a la certitude que son épreuve est temporaire. Le Dieu qui le sauve, son Dieu ne l'abandonnera pas. Il encourage son âme à ne pas désespérer. Malgré tout, il y a de l'espoir. Un espoir qui ne vient pas de lui. Ce ne sont pas ses propres forces, ses propres capacités qui lui donnent de l'espoir. Il ne s'appuie pas sur sa propre intelligence, sur sa propre sagesse, sur lui-même. Un espoir qui ne vient pas de son entourage, mais un espoir qui vient de Dieu. Pourquoi son âme soupire après Dieu? C'est pourquoi, du moins, son âme soupire après Dieu. Les plaisirs du monde ne peuvent pas lui donner la paix et la sécurité qu'il recherche. Seul Dieu, son Dieu vivant, peut le lui accorder cela. Ce qui le fait souffrir, ce n'est pas parce que ses biens l'avaient lâché. Ce qui le fait souffrir, ce n'est pas parce qu'il est poursuivi, mais ce qui le fait souffrir, c'est l'absence, c'est son incapacité à aller à son centre d'intérêt qui est Dieu. Aller dans le sanctuaire, aller à son centre d'adoration, avoir cette intimité avec Dieu, c'est ce qui fait souffrir le psalmiste. C'est le manque de cette intimité-là qui le fait souffrir. Son centre de vie. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? La douleur physique, ça fait mal et ça fait souffrir. La douleur mentale, émotionnelle ou psychologique, ça fait mal, ça fait souffrir. Mais ce qui fait encore plus souffrir, c'est notre séparation d'avec Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut nous dire qu'il est encore là pour nous. Chers frères et sœurs, nous pouvons encore aller à cette source d'eau vive qui est Jésus pour nous réconforter et nous abreuver. Comme la biche soupire après des courants d'eau, que nos âmes puissent soupirer après Dieu. Peut-être que tu passes par des nuits blanches. Ton âme est abattue au-dedans de toi, pour quelque raison que ce soit. Et tes larmes sont ta nourriture, jour et nuit. Tu as même l'impression que Dieu est si loin. Ta détresse, elle est grande et elle continue de grandir. Ce matin, tu peux t'identifier au psalmiste et espérer en ton Dieu, ton rocher. Le roi David disait dans le psaume 34 au verset 6, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et Dieu est capable d'apporter sa délivrance dans nos détresses. Christ, ton rocher, n'a pas changé. Il veut porter tes souffrances avec toi. Il veut porter avec toi tes détresses et tes épreuves. Par quoi tu passes, ou du moins ce par quoi tu passes, ne lui est pas étranger, ne le surprend pas. Où est donc ton Dieu? Mais ton Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Le Seigneur voit tes peines et connaît ta détresse. Et pendant la préparation, j'ai eu le besoin de lire l'histoire de Anne. 1 Samuel 1, 12 à 20 qui dit, « Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. » Certainement que tu es une femme qui souffre en son cœur. Ou un homme qui souffre en son cœur, ou dans son cœur. Et elle répond, « Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Quand on répand notre âme devant l'Éternel, on a l'impression qu'on est ivre, parce que ta souffrance, elle est forte. Et la souffrance de Anne était forte. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent, tellement elle avait mis du temps dans, je dirais, du temps dans ce temps de prière qu'elle avait, là où elle répandait son cœur devant le Seigneur. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même parce qu'elle avait porté ses regards vers l'Éternel. Quand on tourne nos regards vers le Seigneur, nos visages sont rayonnants de joie. Donc elle est partie pleine de détresse, répandant son cœur devant le Seigneur. Elle est retournée avec un regard changé, une vision changée, une foi renouvelée. Dans notre détresse, on peut se tourner aussi vers le Seigneur. La suite du passage nous dit, « Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Dans une autre version, on nous dit, « Car l'Éternel exauce. » Je l'ai appelé Samuel, « Car l'Éternel exauce. » Et je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'a pas cessé d'exaucer. Amen. La détresse, la peine peut être forte, elle peut être difficile, mais Dieu n'a pas cessé d'exaucer. Et ton Dieu exauce encore aujourd'hui. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Comme le psalmiste, espère en Dieu, car tu le loueras encore. Il est ton salut et ton Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, écrivit ceci, 1 Pierre 5, 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prions ensemble.